Bon, et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne.
C'est un lac mythique, la plus grande réserve d'eau douce du monde. On le surnomme la perle de Sibérie. L'hiver, une épaisse couche de glace se forme à sa surface et se recouvre de neige. Une vaste étendue qu'un petit groupe a entrepris de traverser à ski, en autonomie. Petite précision, ce groupe était en partie composé de personnes malvoyantes, non-voyantes ou sourdes. Et certaines d'entre elles n'avaient jamais fait de ski avant de se lancer dans cette aventure. Comment s'est déroulée cette expédition dans le froid glacial du Baïkal et des forêts de Sibérie qui le borde, c'est ce que nous allons découvrir avec Gérard Müller, à l'origine de ce projet, et Olivier Weber, écrivain, grand voyageur et documentariste, qui a réalisé un très beau film sur cette expédition intitulée « Le défi Baïkal, au-delà de la lumière ». Tous deux vont nous raconter cette aventure humaine en milieu extrême, ce qu'elle a apporté à ses participants. Et en fin d'émission, nous retrouverons une vieille connaissance, Alexandre Poussin, qui depuis 4 ans maintenant, fait le tour de Madagascar avec sa famille en charrette à zébu. Le voyage se termine enfin pour lui, nous prendrons de ses nouvelles. Voilà pour la feuille de route de la deuxième partie de notre bivouac.
Donc demain on va skier sur le lac Baïkal et on reviendra demain soir ici au camp.
You need to use very warm gloves.
Vous avez besoin de mettre des gants chauds.
You need to take it near. Because if you change weather, we have a very strong windy.
Le vent peut souffler fort sur le lac Baïkal, donc il faut pouvoir changer de gants. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez deux paires de gants.
And when we move, you need to move in near distance, maximum 50 meters.
Voilà, il faut rester rapprochés les uns des autres. Il ne faut pas se perdre de vue, parce que quand le brouillard se lève, on peut très vite se perdre sur le lac. Donc il faut toujours être en vue, et donc La notion de perte de vue, being blind here, they know what it is about.
Nous étions à la veille du grand départ, les dernières consignes avant que le groupe s'élance sur le lac Baïkal gelé. L'ambiance a l'air bonne, concentrée. On s'amuse un peu devant les consignes du guide. Il demande à des non-voyants ou à des aveugles de ne pas se perdre de vue. Forcément, ça fait sourire dans l'équipe. Les consignes étaient aussi traduites en langue des signes, car il y avait aussi des sourds dans l'équipe. Gérard Müller, c'est vous qui êtes à l'origine de cette expédition. Comment est née cette idée formidable et incroyable à la fois?
Mais l'idée a commencé par la lecture d'un livre de Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. Et j'ai eu envie de découvrir cette région mythique. La deuxième motivation était aussi de faire cette expédition avec mon fils, donc Pierre, que vous avez entendu juste avant, qui est guide de haute montagne. Et d'y associer aussi donc les aveugles. Ça fait de nombreuses années que j'organise des expéditions, mais c'est d'y associer aussi des sourds. Et j'ai déjà fait une traversée du Brésil avec des sourds et des aveugles brésiliens. Mmh. Et je trouve que la cohabitation des deux handicaps qui sont très différents, ouais, apporte beaucoup.
Et ça fonctionne, c'est-à-dire que sur le papier, on se dit, oulala, comment ça va se passer? Et en fait, non seulement l'ambiance est bonne, en fait, on a envie, quand on voit le film, quand on voit votre film, Olivier Weber, on a envie de participer à l'aventure. On n'est pas du tout en train de les plaindre et de se dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au contraire, on a envie de faire partie de la bande parce qu'ils s'amusent, ils s'entraident. C'est ce qui vous est arrivé parce que vous, au départ, vous deviez être le parrain et finalement, vous les avez accompagnés, vous en avez fait un film formidable.
Oui, c'est vraiment très gentil de la part de Gérard et de son fils. Donc Gérard l'a dit, donc qui est guide haute montagne et médecin, que de m'avoir proposé. J'ai dû hésiter peut-être une demi-seconde avant de dire oui. Donc je n'ai pas hésité du tout. Et en fait, on s'est entraîné pendant une année avec tout le groupe, Yves Vinci, qui est aussi à l'origine de cette expédition, Nicolas Linder et tous les autres. Et puis je me suis dit, il y a une telle ambiance dans cette montagne des Alpes, puisqu'on s'entraînait, oui, surtout l'hiver. Il faisait froid, etc. Et quand même, on se préparait à faire la randonnée, marcher à pied. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement d'aller sur le lac Baïkal, mais d'aller aux alentours, oui, les monts Khamardavan, qui sont en fait les Alpes du sud du Baïkal. Il fait aussi très très froid l'hiver. Et puis je me suis dit, il y a une ambiance magique, il y a une osmose entre le groupe des amoureux de la montagne que nous sommes, avec les guides Pierre, Pascal, etc., puisqu'on fait beaucoup de montagnes bien sûr, par profession ou par goût, et puis donc les autres amis. J'ai du mal à dire handicapé, parce que, je veux dire pourquoi, on peut parler de déficience visuelle et autres, Parce que c'est moi qui me suis trouvé handicapé. Je me suis trouvé au pied de la barrière. J'ai eu très peur parce que on a voulu faire un film, donc au dernier moment, on a fait un peu vite, évidemment, pour monter la production. Et il y avait une telle ambiance, certes, mais en même temps, c'était pas évident à cause du froid, etc. Et je me suis dit, mais finalement, peut-être que les handicapés, c'est nous. Les voyants entre guillemets, parce que peut-être qu'on ne voit pas tout, peut-être qu'on ne ressent pas tout, et je peux vous dire, on en parlera peut-être tout à l'heure, qu'il n'y a eu aucun problème et que malgré le froid ou à cause du froid, c'est extrêmement bien entendu. Donc c'est une expérience positive, pas simplement pour le groupe, mais pour montrer aux autres à l'extérieur qu'on peut faire des choses ensemble avec beaucoup de volonté.
C'est tout l'enjeu évidemment hein, de ce défi Baïkal, c'est que ça ouvre des perspectives à tout le monde finalement. Alors le niveau de la fine équipe était quand même très disparate. Hein. Certains n'avaient jamais fait de ski. Je vous propose d'écouter deux membres de cette expédition, Nicolas Linder et Nadia Bouamidi. Ils sont tous les deux malvoyants et n'avaient jamais fait de ski avant.
Quand on skie très très mal, c'est pas des très bons moments. Hein. Et puis la sensation de glisse, de pas savoir où on atterrit, comment prendre une pente en glissant et tout.
C'est vrai qu'on peut pas prévoir par exemple quand la fin de la pente, la descente arrive. Et donc, on est toujours obligé de se préparer à tout. Et des fois, d'ailleurs, ça donne des situations assez drôles où on sent la petite descente qui arrive. On se met en position. Puis là, vraiment, avec les genoux qui descendent et tout. Et puis au final, c'est une pente de 30 cm.
Ouais. C'est la grosse appréhension.
Là, tu te retrouves en bas.
En fait, tu fais rien. Et puis des fois, tu dis, oh, c'est vite fait.
Et d'un coup, ça démarre.
Il est emblématique cet extrait parce qu'ils prennent tout à la rigolade et pourtant on se met à leur place. Ça doit pas être facile d'apprendre à faire du ski quand on ne voit pas ou qu'on voit mal. Concrètement, Gérard Müller, vous étiez organisé en binôme pendant l'expédition. Comment c'était conçu ?
Théoriquement, donc, on fonctionnait en binôme, donc un malvoyant et un voyant qui sert de guide. Mais très vite, les choses ont bougé. C'est vrai que des groupes se formaient, se déformaient, et c'était assez, c'était pas figé.
Ouais. Voilà. Finalement, vous n'aviez pas à ce point besoin des voyants pour avancer, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
Oui, parce que le lac Baïkal a ceci d'extraordinaire. Vous avez devant vous une surface qui fait 700 km de long, 80 de large. Bon, de temps en temps, il y a des humocles, des concrétions glaciaires. Il y a de temps en temps une petite crevasse, mais il y avait quand même les accompagnants. Mais c'est assez extraordinaire de se dire, il y a cette distance devant nous, on peut se lancer, et on peut se lancer tout seul. Ouais. Le risque était quand même limité, c'est pas comme en montagne. Et là, ça donne une sensation de liberté extraordinaire. Et tout, même Nicolas et Nadia, qui étaient débutants à ski, en ont profité.
Oui, ils ont pris du plaisir. Et oui, c'était pas du tout un supplice pour eux, cette expédition. Comment vous les avez sélectionnés, justement, les participants à cette aventure, Gérard Müller ?
Alors, ils ont été sélectionnés pas par rapport à leur niveau de ski.
Oui, ça, on l'a compris.
Parce que il y en avait un qui était quand même Jean, qui était quand même double champion du monde de surf. Il y avait Nicolas, qui n'a jamais fait de ski, et qui était malvoyant, et qui avait aussi des petits troubles neurologiques au niveau de l'équilibre. Il y avait Nadia, qui n'avait jamais fait de ski. Et la vraie difficulté était aussi de créer un groupe homogène, avec des grosses différences entre gens, double champion du monde de surf,
mais
et
donc,
Nicolas.
C'est à la motivation, c'est sur le caractère. Comment vous avez composé cette équipe ? Ce sont des gens qui se sont manifestés, vous avez pris tout le monde. Comment vous y êtes pris ?
Non, il y avait vraiment de tout. Il y en avait qui, si vous voulez, dans le cas d'un handicap, et la cécité est un exemple, il y a une période très difficile qu'on appelle l'acceptation. Le mot acceptation, j'aime pas trop, c'est plutôt faire avec son handicap. Et il est évident qu'on peut mieux travailler avec des gens qui ont passé ce cap, mais il y en avait aussi dans le groupe qui n'avaient pas franchi le cap. Et c'est la première fois, et en plus devant la caméra d'Olivier, qu'ils ont pu parler, donc devant la caméra, de leur handicap. Et ça, c'est une thérapie extraordinaire, et c'est une thérapie qui fait que on arrive à passer ce cap. Et ce cap est absolument indispensable, parce que quand on passe ce cap, on arrive à dépasser son handicap. Oui. Et c'est ce qu'ils ont tous fait ici.
Je vous propose d'écouter justement à ce sujet Alice Lapujade, qui elle est atteinte d'une maladie qui diminue ses capacités auditives et ses capacités visuelles. Un handicap, je le précise, c'est important pour ce qu'elle va nous dire, qui ne se voit pas forcément tout de suite.
Cette expédition, ça a été l'occasion pour moi de parler à mes amis, à mes proches de mon handicap, puisqu'en fait, beaucoup n'étaient pas au courant jusqu'à présent. J'ai eu beaucoup de mal et j'ai encore du mal à accepter en fait, ce handicap. Et là, ça m'a permis de leur en parler de façon positive, de leur dire « voilà, je vois pas bien, j'entends pas bien ». Mais je vais partir en Sibérie avec du monde, ça va être génial. C'était un projet vraiment fou parce que ça allait mélanger des personnes qui ont une déficience visuelle, des personnes qui ont des déficiences auditives. Ça allait être vraiment une expérience humainement très riche. Et j'aurais dit que si je partais, c'était notamment grâce au fait que je suis moi-même malentendante et malvoyante.
Gérard Muller, elle est presque en train de nous dire que son handicap devient une force, ça lui permet de tenter cette aventure. C'était ça votre but, hein, c'était d'inverser la tendance, que vous nous fassiez envie.
Mais ça c'est extraordinaire, arriver avec son handicap à faire envie. Et il y a quelque chose d'extraordinaire parce que souvent, notre handicap suscite quelque chose de terrible, c'est la pitié. La pitié n'apporte rien du tout. Par contre, avec son handicap, ne plus générer la pitié et arriver à faire envie, alors là, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est le vrai objectif. Et c'est comme ça, après le Baïkal, mais je ne vais pas la citer, il y en a une qui, la première fois, a osé se montrer avec sa canne dans Paris. C'était une première pour elle. Elle refusait de sortir avec sa canne, toujours par rapport à cette image négative qu'elles ont ou qu'ils ont de leur handicap. Et ça évite, c'est quand même protecteur, c'est quand même sécurisant, et ça évite de se manger des poteaux.
C'est vrai, hein, vous avez raison, la canne est quand même utile. Vous allez nous raconter comment s'est passée cette aventure sur le lac Baïkal et autour, hein, sur les forêts de Sibérie. Le temps d'un bivouac sur le lac Baïkal gelé avec Gérard Muller et Olivier Weber.
We'll be right back.
Wherever, c'était Allo Maud sur France Inter.
L'avantage d'un projet comme ça, c'est qu'on n'est pas autour d'une table à discuter.
Oh, c'est vrai.
On fait quelque chose ensemble. Ah ouais. Et ça, c'est le plus gros moteur.
Uh-huh.
Voilà. Et du coup, on transpire tous ensemble.
Ouais. On tombe ensemble.
On a peur tous ensemble.
On tombe ensemble. Voilà. Ouais.
On va faire des dans des paysages incroyables. C'est tous ensemble. Donc du coup, on est tous dans la même galère. Et un point, c'est tout. Et ça, l'handicap, il passe au second plan.
Bah ouais.
Et ça, c'est extraordinaire. Et là, on va loin. Là, on est en Sibérie. Il y a des sourds, des aveugles, des non-voyants, des sourds-huchères. Là, on va très très loin. La barre, elle est très 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 haute.
Et oui, on va loin, la barre est haute. C'était Daniel Buffard-Moret, qui est malentendant et qui apprécie d'être dans la même galère que les malvoyants. Olivier Weber, l'une des forces de ce groupe qui a traversé le lac Baïkal à ski et puis qui ensuite s'est aventuré dans les forêts de Sibérie aux alentours. C'est cette solidarité, c'est chacun met dans le pot commun ce qu'il sait faire, ce qu'il peut apporter au groupe, et ça devient, le mot était soufflé à l'instant par Gérard Miller, ça devient une dream team.
Ça devient une dream team. Il y a deux choses aussi par rapport à la question de tout à l'heure, comment on a sélectionné les gens. Bon, d'abord, on se connaît, on apprend à se connaître à travers cette préparation d'un an. Puis deuxièmement, on est obligé de dire non à certaines personnes. Pourquoi ? Parce que ce groupe, cette expédition un peu folle, c'est un projet totalement fou, que d'aller par moins 30 degrés, finalement on a eu moins 20 degrés, donc ça va, on a eu chaud. Mais quand même, l'hiver et la nuit, c'est pas évident, la nuit tombe très tôt, etc. C'est un peu fou que d'aller là-bas sur un lac gelé qui peut craquer un peu avec des crevasses, puis monter en montagne après. Et donc, il y avait deux critères, grosso modo, c'est la cohésion du groupe à l'intérieur, puis deuxièmement, montrer ou démontrer quelque chose à l'extérieur pour les autres. Mais aussi bien les non-valides ou les non-voyants que les valides. Et j'ai trouvé ça très beau, c'était intuitif. J'ai compris aussi que, pardon Gérard, mais qu'ils étaient tous doués.
Oui.
Et ils se connaissent, c'est pas par hasard que ces amis se retrouvent dans des associations. Il y a une sorte de communion comme cela humaine. Et on veut dépasser évidemment son traumatisme ou sa déficience, etc. Et donc effectivement, c'était pas évident, mais ça a marché. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on croyait tous avoir très froid. On n'a pas eu froid. Personne ne s'est plaint. Personne. Le matériel s'est plaint.
Oui. Vous, c'est vrai
le matériel n'a pas aimé les caméras non plus, les batteries non plus, mais
pour vous, les gens. Le défi, c'était de tourner ce film pendant que l'expédition se déroulait.
Tout à fait. Donc il fallait cavaler évidemment. Il fallait aussi percevoir humainement ce qui allait se passer. Il fallait garder à l'intérieur de ces combinaisons. On avait entre 3 et 5 couches. Et ben les batteries, etc., parce que évidemment ça se déchargeait en quelques minutes au froid, etc. Et ça s'est bien passé, c'est une somme de petits miracles, et c'est ce qu'on a voulu montrer non seulement dans l'expédition mais dans le film, c'est que quand on veut, on peut aller au-delà de ces résiliences, on peut aller au-delà de ces déficiences, et moi j'ai beaucoup appris, donc j'ai appris humainement, j'ai appris aussi ce que c'était que le Baïkal. Je croyais à peu près avoir tout vu ou beaucoup vu de par mes voyages, livres et reportages de par le monde, pas du tout.
Alors décrivez-le nous d'ailleurs ce lac Baïkal.
Alors,
dont on parle beaucoup.
Le lac c'est tout blanc évidemment. Il y a pas beaucoup d'aspérité, surtout quand il y a du brouillard pour le regard. Tout d'un coup ça se découvre et puis on voit donc des montagnes par derrière. On voit évidemment des sapins, on entend des animaux, etc. Tout ça sur de la glace et de la neige. Et puis surtout ce que j'ai appris, c'est à ressentir des choses humainement par mes amis malvoyants et non voyants. Et puis aussi ressentir les craquements, les bruits, c'est incroyable. La nuit sur le lac, quand on y dormait, on entendait des micro-tremblements de terre. Ça explique pourquoi ce que Gérard disait tout à l'heure, les UMOC, donc en fait c'est des concrétions, vous avez des blocs, on peut se casser la jambe sur ces blocs de glace, c'est assez dangereux. Eh bien, vous avez des micro-séismes de 1 ou un demi-point sur l'échelle de Richter, ça bouge pas tellement, mais ça cisaille la glace, etc. Ouais. Et donc, il y a ces bruits, et puis il y a cette vue, cette extrapolation de l'image par mes amis. C'est-à-dire, je leur demandais, mais qu'est-ce que vous voyez, évidemment. Une question totalement bête, Olivier.
Ouais.
Eh ben non, si, on voit quand même un peu, on voit des formes et puis on perçoit. Donc ils m'ont appris à voir, et ça c'était très beau. C'était moins évident à transcrire dans la caméra, je l'avoue.
Ouais. Alors Gérard Muller, vous adorez voyager, vous êtes non-voyant, je le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent. Qu'est-ce que vous perceviez de ces paysages? Alors, Olivier Weber a un peu triché parce qu'il nous a déjà parlé des vibrations, des bruits. Donc on a déjà une part de ce que l'on peut percevoir, même quand on n'a pas le regard. Quels souvenirs, quelles images, j'ai envie de vous demander, vous gardez-vous de ce voyage?
D'abord, la première chose que j'ai envie de vous dire, et Olivier l'a déjà dit, un aveugle, ça voit.
Ouais.
Un aveugle, ça voit. Moi, j'ai un tout petit résidu visuel, je devine des silhouettes, et en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce que je perçois visuellement, je me recrée un véritable paysage. Mais j'allais dire, le... C'est pas l'essentiel dans le voyage, le paysage. Et c'est ce que je dis souvent lors de mes voyages. On me pose toujours la même question. Elle est donc, je sais pas, j'anticipe peut-être. Pourquoi tu voyages? Mais en fait, le voyage, mais c'est comme pour vous. Bon, il y a évidemment le paysage, je le vois moins bien, mais quoique, il est peut-être tout aussi beau à travers ma brune de distinguer un rocher, un arbre, une montagne de loin ou de très peu. C'est surtout les rencontres. Et ça, ça a été aussi une richesse de ce voyage. C'était les rencontres avec des travailleurs arméniens. C'était la rencontre avec des aveugles qui vivaient à Irkoutsk. C'est beaucoup aussi de découvrir d'autres modes de vie, d'autres habitudes. Mmh. Et le vrai voyage, c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça ne se limite pas à un paysage. Toutefois, quand même, tout au long du parcours, on voit que vous vous faites décrire les paysages avec beaucoup de minutie.
L'endroit est superbe.
Hein, extraordinaire. Vraiment.
T'as combien de chalets là?
Il y a 5 chalets, puis des petits abris qui doivent servir l'été pour le pique-nique. Ouais. Et puis derrière toi, il y a un petit belvédère qui surplombe la vallée. En fait, on est un espèce de col. Et de l'autre côté, il y a une vallée qui descend. Là.
Il y a un sommet qui domine tout ça?
Alors, on a un sommet sur notre sur ta droite.
Là, ici?
Non, derrière toi, là, en fait, ouais. À 6 heures. Et puis le Jersey, là, le sommet qui culmine à 2100, il est derrière cette ligne de crête.
On le distingue pas.
Non, on le voit pas, non. Non.
C'est calme, là.
Ah ben là, c'est... Ouais.
Gérard Müller, comme vous avez commencé à perdre la vue à l'âge de 50 ans et que vous étiez un voyageur avant, hein, vous adoriez la montagne, vous avez gardé en mémoire de nombreuses images. Ce qui fait que, avec toutes ces descriptions, hein, que vous demandez régulièrement qu'on vous décrive le paysage autour, ça vous permet de recomposer ces nouvelles images que vous ne pouvez plus percevoir tout à fait?
Mais absolument, je reconstitue le véritable paysage autour de moi. Le décor, je le restitue. Et je vais vous dire une chose, il est peut-être plus beau que le paysage qu'a vu Olivier, qui est à côté de moi. Ouais. Et c'est vrai que l'imaginaire est important. D'ailleurs, le phénomène visuel, hein, c'est physiologique, utilise 80% du cerveau. Et donc, on voit aussi, pas uniquement avec les yeux, mais avec son cerveau. Et c'est vrai que l'imaginaire est important.
Ouais. Olivier Weber, il vous est arrivé de vous sentir démuni pour essayer de faire passer ce que vous voyez à la partie de l'équipe qui ne voyait pas.
J'avais une trouille immense.
Ouais, c'est une responsabilité. Partir,
tu fais un film et c'est totalement fou. Puis on commence à me poser des questions. Mais pourquoi tu pars avec des aveugles? Ils vont rien voir, etc. Alors j'essaie de démontrer. Ben non, au contraire, ce que vient de dire Gérard, ils vont voir beaucoup mieux que moi. Puis moi, j'essaie de ressentir ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vont voir, etc. Et en fait, j'ai senti cette formidable énergie, ce formidable enthousiasme et ce désir de partage que j'ai ressenti moi aussi, parce qu'il y avait vraiment ces deux groupes. Il y avait d'une part les malvoyants, non-voyants et les malentendants, mais aussi nous, finalement, les accompagnants. Comme disait Gérard, on avait fait des petits plans en disant, voilà, bon, il y aura un binôme à chaque fois, un accompagnant et un malvoyant ou un malentendant derrière. En fait, tout ça s'est disloqué à la vitesse grand V. Mmh. J'avais quand même très peur pour le fond du film, et puis non, ça s'est bien passé, d'où aussi ce titre qui s'appelle Au-delà de la lumière, c'est le deuxième titre, en fait, parce que voilà, on arrive à aller au-delà des paysages que Gérard décrit beaucoup mieux que moi. Et puis, je dirais qu'il y a une chose que j'essaie de montrer dans le film, c'est qu'on s'est passé totalement de commentaires. C'était pas évident avec France Télévisions, ils m'ont dit oui à la fin, c'était pas leur genre de beauté, mais ils m'ont dit vas-y, évidemment, on te suit. Il n'y a pas de commentaires parce que ce sont eux, les gens qui ouais. sont beaux, les paysages qui sont beaux, ils sont humains également. Ouais. Et voilà, donc il y a eu aussi d'émotions, beaucoup d'émotions d'ailleurs, je ne vais pas tout dévoiler. Mais c'était un challenge, c'était un pari. Au départ, comme vous le disiez, j'étais simplement le parrain de l'expédition en tant ouais. qu'amoureux de la montagne, comme les guides de haute montagne de Chamonix, et d'ailleurs. Mais voilà, ça s'est transformé comme ça, parce que j'avais envie de délivrer un message pour les autres aussi. On a ouais. tous eu des petits bobos. J'ai donné un exemple aussi. Il y avait une seule place, malheureusement, pour un grand reporter. Et il se trouve que c'est un de vos confrères. Il est de Radio France Internationale, Toufik Ben Aïchouch. Et c'est un ami. On s'est vu plein de fois à l'étranger sur des reportages de guerre ou autres. Et tous les deux, on s'est dit plusieurs fois le soir, sous la tente par moins 30 ou moins 20 ou dans les cabanes de chasseurs, on n'a jamais ri autant de notre vie parce ouais. qu'ils sont drôles. Ouais. Ils font que des gags, etc. Et évidemment, nous aussi, on fait des gags parce qu'on leur dit bah, regarde, Gérard, comme c'est beau la montagne. Ce matin, il y a du soleil, 6 heures du matin. Et on se dit, bah non, je ne vois pas Gérard. Ouais. Et c'est d'ailleurs une réponse que tu m'as dite, Gérard, à l'entraînement. On était au pied d'une montagne de 3000 mètres dans les Alpes. Pareil, 6 heures du matin, la brume s'était dégagée au bout de 3 jours. Il me dit, t'inquiète pas Olivier, je ne suis pas vexé, ça veut dire que tu penses que je suis vraiment voyant et avec toi. Je trouvais ça très beau. Ouais. Donc voilà, c'était un challenge, ça, je pense qu'on a réussi, mais on a voulu communiquer.
Quand on fréquente pas des gens qui ont ces problèmes-là ou qui sont confrontés à ces handicaps, on se croit toujours obligé de prendre plein de pincettes et finalement ça se passe mieux quand on plaisante.
Tout à fait.
Sans évidemment être dans la moquerie.
Absolument, je crois qu'il faut vraiment être dans quelque chose d'assez simple. En fait, évidemment, sans être dans la moquerie, hein, il faut aussi garder nos sensibilités de part et d'autre. Mais je crois qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est, et c'est très important. Et encore une fois, pour moi, le message il est là. J'ai du mal à dire encore une fois handicap. Hein, le handicapé, c'est souvent nous-mêmes et moi au premier plan. En tout cas, il y a des dons qui se révèlent. Il y a une hypercommunicabilité, une grande sensibilité.
Et c'est ce qui frappe dans votre film, beaucoup d'humour et souvent qui s'enchaîne à des discussions plus graves, plus profondes.
Il y a un non-voyant qui a piqué la gourde de ma femme qui est sourde.
C'est moi.
Alors ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. C'est une situation inédite.
Franchement c'est odieux, mais c'est peut-être un malvoyant qui en voulait aux sourds, tu vois.
Ah peut-être. Ouais.
Là, on voit qu'entre nous, on rigole beaucoup sur le fait qu'on est bigleux, qu'on est sourd. Enfin, ça nous fait beaucoup rire. Et j'essaye d'en rire le maximum. Mais bien sûr, des fois, c'est pas drôle du tout. Hein. Des fois, j'en pleure aussi beaucoup. Par contre, voilà, on en pleure, on en rigole. Et pour moi, l'objectif, c'est de passer à en rire 90% du temps et en pleurer peut-être 10% du temps. Donc, à accepter le plus possible, même si ça sera jamais pour moi une totale acceptation, je pense.
Gérard Muller, ce sont des bribes de discussion que l'on a là, mais on a l'impression que la parole s'est libérée entre personnes qui souffraient d'un handicap, mais qui avaient parfois du mal à l'aborder, à en parler. Là, les gens ont aussi osé en parler entre eux, au-delà de la plaisanterie. Ça a été l'occasion de se livrer un peu aussi.
Oui, il est vrai que la chose la plus difficile, ça a été pour moi le cas aussi, dans cette période assez difficile qu'on appelle la période du déni, on ne se reconnaît pas comme personne handicapée, on a honte de son handicap, on ne s'aime pas en tant que personne handicapée. Et donc, pendant cette période de déni, il est quasiment impossible de parler de son handicap. Il est presque impossible de parler de sa différence. Et là, un certain nombre d'entre eux, dont Alice et Nadia, c'était la toute première fois qu'ils ont réussi à parler de leur différence. Et ça, c'est une véritable thérapie. Et le rire est aussi une thérapie. Et là, il me revient ce que me disait mon épouse, qui m'a beaucoup accompagné pendant cette période de déni. Et cette période de refus, elle m'a dit, le jour où tu riras de ta différence, le jour où tu riras de ton handicap, la partie est gagnée. Et on le voit très bien, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et pour ça, ce voyage a été un formidable médicament.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une thérapie, ce voyage.
C'est une vraie thérapie.
Mais c'est une formidable thérapie. Allez, on poursuit notre expédition avec les aventuriers du défi Baïkal, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Surrender.
C'était Even the Blaze sur France Inter.
Là, on est en train d'installer le camp au milieu de la pointe sud du lac Baïkal, à peu près à 5 km de la côte d'un côté, à une vingtaine de kilomètres de la côte de l'autre côté, et au milieu d'un champ de houmok, là, de glace brisée. C'est très très joli quand le soleil se couche. Il y a une superbe lumière. Et puis voilà, ben, on finit d'installer les tentes et puis on va être paré pour la nuit.
Yevgeny, what do you do?
I make the big cone.
Why?
For the, because we need to take the water for the cooking.
On entendait votre fils hein, au début de cet extrait, Gérard Müller, votre fils qui s'appelle Pierre Müller. Il est guide de haute montagne et il faisait partie des deux guides qui accompagnaient cette expédition. Ce qui fait que cette expédition, c'était aussi l'occasion des retrouvailles, même si vous n'étiez pas vraiment séparés, mais en tout cas d'un rapprochement entre un père et son fils. Je crois que vous l'avez impressionné, en fait, votre fils pendant cette expédition. À un moment, il vous dit « t'es un vieux qui donne envie de vieillir ». C'est la plus belle déclaration qu'on puisse faire à son père, Gérard Müller.
Ouais, c'est vrai que cette déclaration m'a beaucoup touché. Mais j'ai doublement aimé cette relation parce que je l'ai découvert dans son métier de guide. Parce que, bon, j'ai déjà fait de la montagne avec lui, mais c'était une relation père-fils, et je ne l'ai jamais vu en tant que chef d'expé, ce qu'il fait, c'est son métier. Mmh. Et lui, de son côté, il m'a découvert, parce que, disons, j'en parlais pas beaucoup, il savait que j'étais très impliqué dans le monde associatif pour la déficience. Il m'a aussi découvert dans mon rôle un peu, comment j'allais dire, comme ils m'ont baptisé leur père spirituel, ouais. Ou les mauvais anges disaient spiritueux, parce que c'est vrai qu'il y avait la vodka.
On ne veut pas tout savoir.
Voilà. Et donc, il m'a aussi découvert, et ça a été pour moi une belle... des retrouvailles.
Oui, oui, c'est ça. Il y a ça. Olivier Weber.
Oui, l'histoire de Pierre, elle est magnifique. En fait, j'ai connu Pierre avant Gérard, qui est ici, donc le fils avant le père, parce qu'on a fait des missions humanitaires ensemble en Irak, avec les Kurdes et surtout sur les violences faites aux femmes. Et Pierre me disait, le soir, il me parlait de son père, donc Gérard, pharmacien, qui avait perdu la vue, et je trouvais cette approche très très belle. C'est comme ça aussi que je suis rentré dans le groupe, et on a monté comme cela tous ensemble l'expédition. Et pour revenir au film, je me suis dit, voilà, on va pas dire tout de suite dans le film, en plus il n'y a pas de commentaire, qu'il y a le père et le fils, et tout d'un coup, on était dans un long boyau en pleine montagne, on était à 2000 mètres d'altitude, j'ai laissé partir les autres devant, on est près d'un ravin, il y a un soleil qui commence à être arasant, presque couchant, donc il fallait pas perdre de temps, je me suis dit, c'est le moment où le père et le fils vont se parler. On lance une première question, on appuie sur le bouton, c'est tout ce que j'ai eu à faire. Il s'est passé quelque chose d'assez magique, c'est que le père et le fils se sont confiés devant la caméra, mais presque hors caméra, parce que Tamon était absent avec la cadreuse. Et je trouvais ça très beau parce que il s'expliquait quelque part sur ce passé, sur ce présent, sur ce futur. Les deux amoureux de la montagne, finalement que tu es Gérard, puisque tu as aussi initié ton fils à être guide de haute montagne, mais tu lui as dit quand même, essaye de faire des petites études. Puis il a dit, bon, je vais faire médecine. Il a fait médecine comme s'il avait fait un BTS. Et c'est quelqu'un de formidable et formidable dans le groupe également. Et j'ai voulu montrer cela également, une histoire dans l'histoire, qui est cette redécouverte du père et du fils. Alors, je crois que c'est admiratif des deux côtés aussi, aussi bien de ton côté que du sien. Ouais,
oui, il y a vraiment un échange et une vraie admiration entre le père et le fils. C'est vrai que la relation est très belle. Et il avait, mine de rien, accepté. Donc, il était à la fois guide et là, en tant que médecin, votre fils Pierre, il avait la responsabilité de ce groupe. Ça n'est pas rien, d'autant qu'il y avait effectivement, tout au long de votre parcours, de véritables épreuves. Vous avez, par exemple, eu à traverser à un moment une crevasse sur ce lac.
On va devoir traverser cette crevasse-là qui a regelé, mais la pellicule de regel, elle est assez fine. Ce sera suffisant pour qu'on puisse traverser. Mais on va traverser un par un. Avec les skis, c'est bien, on a beaucoup de surface, donc il n'y aura pas de problème. Mais voilà, un par un, dès qu'il y en a un qui sera arrivé au bout, on fera signe pour que le suivant puisse traverser. Ok ?
Au niveau de ton sac.
Non. Hein? No close.
No close ?
If you fall it, you need to very fast to go out, your backpack.
Ah, ok.
After, you can close, ok ?
Ouais.
Gérard Müller, est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Est-ce que malgré toute cette solidarité, malgré toute cette motivation, à certains moments, certains ont craqué ou se sont sentis incapables de faire ce que les événements attendaient d'eux?
Alors je vais peut-être vous surprendre, il n'y a eu à aucun moment, et Olivier peut confirmer, l'ombre d'un découragement et il voulait vraiment arriver au bout et c'est vrai que pour Nadia et Nicolas, c'était un véritable exploit parce que découvrir un endroit avec des conditions extrêmes pour des gens qui n'y voient pas et qui débutent le ski, c'était un véritable exploit et à aucun moment il y a eu découragement.
Olivier Weber.
Oui, très rapidement, c'était formidable parce que ils en ont bavé quand même. Tu seras d'accord avec moi, Gérard, parce que on les a fait cavaler, etc. Puis il faisait froid, puis on mangeait pas tout le temps à l'heure, etc. Jamais ils ne se sont plaints. Ouais. J'étais même étonné. Et je vais vous donner un exemple, celui qu'on entend tout à l'heure là dans le passage de la crevasse, qui est un passage un peu délicat parce qu'on est habillé, il faut pas tomber dans l'eau évidemment. On a des skis, on a le sac à dos, on peut mourir. Donc on est encordé, etc. C'est délicat. Celui qui parle, c'est Evgeny, le troisième guide en fait, qui est russe, qui a 32 ans, qui est amoureux du Baïkal. Il dit toute ma vie, je passerai mon existence ici, l'été, l'hiver, etc. Et puis il me dit quand tu m'as appelé, etc., pour me dire que tu allais venir avec des malvoyants, etc., je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans quel embrouille je vais me tirer encore une fois? Et il a dit, devant la caméra, c'est the best team, la meilleure équipe. Il dit, mais jamais ils ne se sont plaints, mais vous êtes des gens formidables, etc. Donc, de la part d'Evgeny, pour nous, c'était un compliment. Et donc voilà, ça veut dire encore une fois que quand on veut, on peut. Ouais. Et c'était des belles histoires, malgré, alors personne ne s'est plaint, mais il y a eu quelques petits pleurs que j'ai surpris quand même, mais on les a pas montrés.
Hein. Vous les avez pas montrés, voilà. Oui. Mais c'est quand même aussi, c'est aussi rassurant pour nous de savoir que c'était dur, pour eux, que ce ne sont pas des surhommes. Je vous propose d'écouter Nadia Bouamidi, l'une des participantes malvoyantes.
Il y a eu un moment quand j'ai vraiment compris que, je sais pas, d'ailleurs j'ai rien compris encore. C'est-à-dire que je sais pas ce qui va se passer, mais je me suis dit, ma vie, à moi, elle va être très bien. Il n'y aura rien à envier aux autres. Voilà. Je me suis dit ça. Je me suis dit qu'il était hors de question que... Enfin, on n'a pas une vie en solde, quoi. Faire du Baïkal, c'est dire, je vais me servir de ça comme occasion, justement. Pour rencontrer des gens, pour rigoler, pour faire des choses que j'aurais jamais eu l'occasion de faire. Et on n'a pas le choix, il faut faire une transaction, quoi. C'est-à-dire que dire, ok, les gars, je vous cède ça, mais en contrepartie, il va falloir rembourser, quoi.
On n'a pas une vie en solde. Je la trouve superbe, cette phrase, Gérard Müller. Magnifique. C'est ce que vous vouliez montrer avec cette aventure. C'est que les malvoyants, les non-voyants, bon, il manque quelque chose, mais ils peuvent vivre pleinement. Et vous vouliez que ça serve d'exemple aussi. C'est ça, votre combat.
Oui. Et il y a une phrase qui est revenue plusieurs fois pendant ce voyage, pendant cette expédition. Une phrase que j'utilisais aussi souvent et que j'utilise toujours souvent. Finalement, avec ce qui m'arrive, qui est quand même quelque chose de, il faut le dire, qui est quand même pas quelque chose de facile. Et finalement, j'ai de la chance parce que ça m'a fait découvrir tellement d'autres choses que je me suis dit, et ce qu'ils ont dit, ben finalement, je crois qu'Alice le dit aussi, et Dieu sait qu'elle vit quelque chose de difficile. Mais finalement, j'ai de la chance. Mon handicap, ma différence, me fait découvrir autre chose.
Vous allez même jusqu'à dire « mon handicap m'a ouvert les yeux oui. » avec un certain humour, évidemment. Vous voudriez aussi que ce genre d'aventure serve dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que on n'est pas uniquement en train de jouer au héros sur le Baïkal. On montre qu'on est capable de faire ça. Alors, s'il vous plaît, dans les entreprises, laissez-nous notre chance. Donnez-nous notre place dans le quotidien, dans la société en général. C'est aussi ça le message, évidemment.
Mais j'ai envie de rajouter, oui. Eh ben, on n'est pas des boulets. Et la preuve, c'est que tous les jeunes qui étaient là sur le Baïkal, avec leurs différences, ben, ça peut être une valeur ajoutée dans une équipe. Ça apporte beaucoup de choses dans une équipe. Et c'est le message, et c'est Olivier, grâce à son film, le message qu'on essaye de faire passer avec Olivier, c'est de dire, mais voilà, il y a des gens extraordinaires. Alice est une fille extraordinaire. Nadia et Nicolas, ce sont des jeunes extraordinaires. Et dans une équipe, eh ben, ça peut se donner une sacrée plus-value. Voilà ce que, le message, Olivier, qu'on, qu'on essaye de faire passer.
D'accord à 100% sur la valeur ajoutée, le voir autrement, puis le faire avec, c'est ouais, magnifique. Ouais.
Alors, Olivier Weber, hein, vous êtes un grand reporter, vous êtes un grand voyageur, un écrivain, vous avez reçu le prix Albert Londres, enfin, vous en avez vu d'autres. Hein. Alors, cette aventure-là, qu'est-ce qu'il vous en reste? Est-ce qu'elle vous a appris quelque chose? Est-ce qu'elle a changé aussi un peu votre regard à vous?
Totalement. Et d'abord, j'ai appris à voir autrement, à voir avec leurs yeux. Et puis, deuxièmement, ce qui est très, très important, c'est des histoires d'amitié, des histoires fortes. Donc, ce sont des amis pour la vie, quoi qu'il se passe. Et puis, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, on était deux grands reporters. On s'est connus sur des terrains de guerre. Donc, Toufik Benaïchouch de Radio France Internationale et moi-même. Et on parle jamais de nous, parce qu'on est là pour parler des autres, par nos reportages, nos livres, nos documentaires, même nos romans. Parce que la réalité peut aussi être sublimée par la fiction. Et puis là, on a tous eu, en rentrant de Bagdad ou d'ailleurs de Syrie ou d'Afghanistan, des problèmes de résilience, parce que c'est pas évident ce qu'on voit. Et il s'est trouvé que pendant plusieurs soirs, on en a parlé. Et on en a parlé avec nos amis malvoyants. Et on s'est rencontrés sur ce que Gérard a qualifié tout à l'heure de phase de dépression et d'acceptation ensuite, et donc éventuellement de rétablissement, donc de résilience. Et je croyais qu'il y avait des points communs, et donc moi j'ai beaucoup appris là-dessus, et ce que j'ai envie, c'est de communiquer, de montrer, voilà, donc on est vraiment extérieur aussi à l'expédition, on s'est fait plaisir parce qu'on est parti, même si on en a bavé, mais peu importe, mais en tout cas, ce que j'ai voulu faire, c'est regarder différemment, montrer ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu, y compris les bruits, y compris le paysage humain, le spectacle de leurs propres émotions. Et donc voilà, c'est une belle leçon pour moi. Je me suis trouvé un peu, pas candide, mais voilà, au pied d'une nouvelle montagne. Voilà, j'ai presque une nouvelle vie, c'est ouais. Différent.
Alors, le film a été primé dans plusieurs festivals déjà. Il est passé, une version est passée sur France 3. Si on veut le voir, si on l'a loupé, il y a un moyen de voir ce film?
Pas encore, mais j'espère qu'il y aura un DVD, parce qu'il est encore en monstration donc pour des différents festivals, y compris pour la Russie prochainement, et puis dans d'autres festivals internationaux. Donc là, pour l'instant, j'espère qu'il y aura aussi une rediffusion sur les télévisions France 3 et France 5. Il faut attendre un petit peu.
D'accord. Alors voilà, le défi Baïkal, au-delà de la lumière, guettez peut-être qu'il passera prochainement ou sera rediffusé à la télévision sur France 3 ou sur France 2. Gérard Müller, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur vos actions, est-ce qu'on peut donner un site internet, une adresse pour ceux qui voudraient vous suivre?
Ben avec grand plaisir. Donc, Asso Ivoire. A2SO, tout attaché, Ivoire, yvoir@gmail.com.
Très bien, on va mettre tout ça évidemment en lien sur la page de l'émission et puis sur le Facebook du Temps d'un Bivouac. Restez avec nous, dans un instant, on file à Madagascar. C'était Karangeli Karaouva de Yatka sur France Inter dans le temps d'un bivouac. La programmation musicale est signée Elsa Béranger. Et pour notre dernière aventure en direct, nous allons prendre des nouvelles d'une vieille connaissance.
Allô,
ici Madagascar.
Vous pouvez patienter un petit moment?
Oui, j'attends.
En charrette à Zébu, la famille Poussin sur France Inter.
L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il.
Bonjour Alexandre Poussin.
Bonjour.
Alors c'est la première fois que l'on vous entend cet été, mais les auditeurs assidus du temps d'un bivouac le savent. Cela fait 5 étés que chaque année nous prenons de vos nouvelles. Vous êtes parti il y a 4 ans maintenant pour faire le tour de Madagascar en charrette à Zébu avec votre compagne et vos 2 enfants. Et ça y est, le périple est en train de toucher à sa fin, c'est ça ?
Il a touché à sa fin, ça y est, c'est fini. En malgache, pardon, j'ai eu un lapsus, j'ai dit c'est vita. En malgache, on dit vita lalan, la route est finie, tap, tap, ça veut dire c'est fini.
Très bien, et vous êtes où alors exactement ?
Alors on est à Tana, puisqu'on était parti de Tana et qu'on a fait le tour du pays avec cette ambition un peu folle, il a fallu revenir à la case départ. Ça s'est fait après 4 ans et 5000 kilomètres, évidemment, c'était même pas quitte ou double, là c'était quitte ou triple.
Ouais, 5000 kilomètres en charrette à Zébu avec votre femme Sonia, avec Ulysse et Philae, vos 2 enfants. Évidemment vous n'allez pas résumer 4 ans comme ça en 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé déjà sur la dernière année là ? On ne vous a pas eu au téléphone depuis un an. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Quelle portion vous avez faite ?
La dernière année, ça a été le Nord. Et pour nous, ça a été une révélation. Le Nord est vraiment extraordinaire. Parce qu'il y a une grande, grande diversité de paysages. Ce qu'on peut dire de ça aussi du Sud. Le Sud est plus plat, et plus sec, et plus chaud, et plus monotone. Il y a moins de relief. Là, il y a extraordinairement de variété. Il y a des reliefs, il y a des jungles, il y a des montagnes, il y a des baies extraordinaires. La deuxième plus grande baie du monde, la baie de Diego. Il y a la mer d'Émeraude à Babaoumbi, qui est un centre mondial de kite, et qui est extraordinaire. La mer est cristalline. Il y a la montagne des Français derrière Diego, le pain de sucre au milieu de la baie de Diego. Il y a Nocibé, évidemment, que les gens connaissent un peu plus, mais autour de Nocibé, il y a une kyrielle d'îles avec des plongées absolument dans une mer cristalline. On a fait du snorkeling avec des requins-baleines, on a nagé avec des tortues-luttes, avec des tortues qui font 2 mètres de long dans 2 mètres d'eau, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut rester une heure avec une tortue verte sans contrainte. C'est comme nager avec un dinosaure.
Oui.
On a vu des tortues naître, le sable accoucher de 200 sortes de petites tortues qui courent vers la mer. Tout le monde a vu ça à la télévision, mais le voir en vrai,
et oui,
c'est une expérience qui marque à vie.
Mais Alexandre,
le Nord a été pour nous la variété et la sécurité.
Alexandre, avec vos enfants Ulysse et Philae, avec ce parcours de 4 ans sur les routes malgaches en charrette à Zébu, vous leur avez fait un cadeau incroyable. Quel âge avaient-ils quand ils sont arrivés ? Quel âge ont-ils aujourd'hui ?
Ils avaient 6 et 9, et là ils ont 11 et 14. Philae va fêter ses 14 ans dans 2 jours.
Ouais. Alors comment ont-ils vécu cette aventure ? Est-ce qu'ils rentrent contents de retrouver aussi leur vie en France ? Ou est-ce que ça y est, ils avaient adopté le pays ? Sont-ils tristes de rentrer ?
Ah, les deux points de vue sont dans notre famille. Philae est contente de rentrer, elle a 14 ans, elle est adolescente, elle veut retrouver, elle dit, une vie normale avec des copines et une école normale, pas une école charrette.
Ouais.
Ulysse dit l'inverse, il dit, mais moi je n'ai connu que ça, je ne me souviens plus de ma vie d'avant, j'ai peur, j'appréhende la vie d'après. Et moi je lui dis, mais t'inquiète pas, mon chéri, la roue tourne, une page est tournée, mais une autre va s'ouvrir, qui est extraordinaire. Pour nous, ça va être aussi le moment de parler, d'écrire, de relater, de justifier ces 4 ans de sacrifices, d'épreuves, de souffrances, de bonheur. Mais il y avait aussi quand même des difficultés. Et les justifier par le partage, les conférences, les films, le livre et notre métier.
Ouais. Vous vous attendiez à ce que ça se passe comme ça quand vous êtes parti il y a 4 ans, Alexandre ?
Non, évidemment, le pays, on pensait que ce serait plus court, plus facile, plus rapide. Ça a été plus long, plus dur, plus profond, plus dur.
Ouais.
Et avec un feedback extraordinaire, hein, le retour. Allez sur la toile, allez voir sur Facebook Madatrek, vous verrez l'effet miroir qu'on a pu rendre à ce pays. Les Malgaches sont extraordinairement enthousiastes de notre aventure. C'était pas du tout gagné d'avance.
Merci.
Parce que quand des étrangers viennent faire des choses chez eux, ils sont toujours un petit peu dubitatifs. Mais là, la rançon de la gloire pour nous extraordinaire, c'est que c'est beaucoup d'amour.
Merci Alexandre. On va mettre en lien votre page internet madatrek.com pour ceux qui voudraient en savoir plus. Merci à vous.
Merci alors, beaucoup, merci.
Au wiedersehen. Sayonara. Et bien d'autres choses encore.
Au revoir, monsieur.
Demain, pour la dernière, nous partirons en forêt tropicale, observer les arbres et étudier leurs capacités insoupçonnées. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et après le journal, vous avez rendez-vous avec Charlotte Lipinska pour un nouveau Mac de l'été.